Chapitre 7 Les rues de Kemlin. Dans les rues en pente de Kemlin, à travers les collines, la suite d'Elaine ne passait pas inaperçue, et la jeune femme non plus. Le lys d'or, sur la poitrine de son manteau écarlate doublé de fourrure, était largement suffisant pour que les citoyens de la capitale l'identifient. Elle avait pourtant relevé sa capuche afin de dévoiler la rose d'or unique qui ornait son diadème. En ce jour, ce n'était pas seulement Elaine, la haute chère de la maison Trakand, qui traversait la ville, mais la fille héritière dans toute sa grandeur, et il fallait que tout un chacun le voie et le fasse savoir. Sous la pâle lumière de la fin de matinée, les dômes de la nouvelle cité composaient une symphonie d'or et de blanc, et les branches couvertes de givre des arbres dénudés de chaque côté des artères principales, scintillaient comme des bijoux. Même à l'approche de son zénith, et malgré un ciel sans nuages, le soleil ne diffusait pas vraiment de chaleur. Par bonheur, il n'y avait pas de vent. L'air restait cependant assez froid pour que le souffle d'Elaine se transforme en buée. Quoi qu'il en soit, avec ses rues et ses ruelles où on avait déblayé la neige, la ville revivait et bruissait d'activité. Enchaînés à leur travail presque autant que leurs chevaux, les conducteurs de chariots et de charrettes se frayaient lentement un passage dans la foule. Résignés à se traîner, ils resserraient les pans de leurs manteaux pour ne pas grelotter. Vide, à en juger par le bruit qu'il produisait, un chariot-citerne avançait vers la tour d'eau où on le remplirait. Ensuite, il repartirait combattre les incendies volontaires bien trop fréquents. Quelques camelots et colporteurs bravaient les frimas pour vanter les mérites de leurs produits. Pressés de rentrer chez eux, les passants ne leur accordaient aucune attention. Pour autant, ils n'avançaient pas très vite, parce que les rues engorgées les en empêchaient. Désormais, Kemlin était encore plus surpeuplée que Tarvalon. Dans cette fourmilière, même les cavaliers faisaient du surplace. En quelques heures, Elaine n'avait vu que deux ou trois carrosses. Si leurs passagers n'étaient pas invalides, ou en partance pour un long voyage, c'étaient de pauvres idiots. Sur le passage d'Elaine et de sa suite, tout le monde s'immobilisait. Alors que certains citadins la désignaient du doigt, d'autres hissaient un gamin sur leurs épaules.
« Comme ça, tu pourras raconter à tes enfants que tu l'as vu !»
Mais vu qui ? La future reine ou une femme qui dirigeait provisoirement la ville ? Toute la question était là. De temps en temps, des cris encourageants retentissaient.
« Trakand ! Trakand ! »
Ou mieux encore.
Elaine Néandor !
La fille héritière aurait aimé entendre plus de vivates, mais mieux valait le silence plutôt que des huées. Les Andoriens étaient un peuple expressif, et ça se vérifiait deux fois plutôt qu'une à Kemlin. Par le passé, à cause de huées spontanées dans les rues, des reines avaient fini par perdre leur couronne. Cette idée glaça les sangs d'Elaine. « Qui tient Kemlin, tient l'Andor », affirmait un dicton. Comme Rand l'avait démontré, ce n'était pas tout à fait vrai. Cela dit, la capitale restait le cœur du royaume. La fille héritière avait réclamé la cité. Sur la façade des tours de garde, l'étendard du lion et la clé de voûte d'argent des Trakand se partageaient les places d'honneur. Mais elle ne possédait pas encore le cœur de Kemlin, qui comptait beaucoup plus que les bâtiments.
« Ils m'acclameront un jour », se jura-t-elle. « Je mériterai leur vivate. »
Pour l'instant, les cris enthousiastes semblaient un peu perdus dans la vaste foule. Elaine aurait donné cher pour qu'Avienda lui tienne compagnie, mais Layel n'avait pas jugé bon de grimper sur un cheval pour une simple promenade. Même si elle n'était pas là, Elaine la sentait. Pas exactement comme elle sentait Birgit, sa championne, mais elle avait conscience de la présence en ville de sa sœur. Un peu comme si elle était dans une pièce sans qu'elle la voie. Une sensation réconfortante. Les compagnons de la fille héritière attiraient eux aussi l'attention. À Aes Sedai depuis seulement 3 ans, Sareïta n'arborait pas le visage sans âge de ses consoeurs. Dans sa robe en laine couleur bronze, une grosse broche d'argent incrustée de saphir fermant le col de son manteau, elle ressemblait à une négociante prospère. Ned Yarman, son champion, la suivait comme son ombre. Et lui non plus ne passait pas inaperçu. Grand, les épaules larges, ce jeune homme aux yeux bleus brillants portait une cape caméléon qui se fondait dans le décor. Du coup, on eût dit que sa tête flottait au-dessus d'un puissant ongre gris auquel il manquait aussi des morceaux de la croupe, là où tombaient les pans du vêtement. Yarman ne faisait aucun mystère sur sa nature, et ne chercha jamais à dissimuler que sa présence signalait celle d'une Aes Sedai dans un très proche périmètre. Les autres membres de l'escorte entouraient Elaine pour la protéger. Vêtues de l'uniforme rouge des gardes de la reine, ces huit femmes faisaient s'écarquiller bien des yeux. De fait, ce n'était pas un spectacle habituel. À dire vrai, si Elaine les avait choisies parmi les nouvelles recrues, c'était exactement pour ça. Leur sous-officier, Kasey Raskovny, aussi élancé et dur que la meilleure promise, était un oiseau rare. Une garde du corps de marchand, avec 20 ans d'expérience en poche, comme elle aimait à le dire. Les clochettes d'argent piquées dans la crinière de son lourd ongre rouan indiquaient qu'elle était originaire d'Arafel. Cela posé, elle restait très allusive sur son passé. La seule andorienne du lot, Denny Colford, avait longtemps officié comme videuse dans une taverne pour conducteurs de chariots, à l'extérieur de la ville. Un autre travail peu commun pour une femme. À cette heure, Denny ne savait toujours pas utiliser l'épée qui battait sa hanche. Mais selon Birgit, elle avait un regard d'aigle, des réflexes rapides, et l'art de se servir efficacement du gourdin qui pendait sur son autre hanche. Les 6 autres femmes étaient des quêteuses du corps. Un groupe disparate avec des grandes, des petites, des jeunes, des moins jeunes, des minces et des moins minces. Alors que quelques-unes se montraient aussi discrètes que Kasey, d'autres se vantaient à tout bout de champ de leur position passée. Chez les quêteurs du corps, les 2 attitudes étaient communes. Mais ces femmes avaient voulu s'enrôler dans la garde, une preuve de leur valeur. Plus important encore, elles étaient passées sous les fourches codines de l'intraitable Birgit.
« Ces rues ne sont pas sûres pour toi, »
dit soudain Saraïta. Talonnant sa jument marron, l'Aes Sedai se porta à hauteur du hongre noir d'Elaine. Agressif, Cœur de Feu essaya de mordre la pauvre bête, sans succès, parce que la fille héritière tira très fort sur ses rênes. Dans une rue très étroite, la foule encore plus compacte, les 8 gardes se rapprochèrent un peu plus de leur protégé. Malgré son impassibilité coutumière, une caractéristique professionnelle, Saraïta laissa deviner son inquiétude.
« Dans une telle fourmilière, tout peut arriver. N'oublie pas qui est descendu au signe d'argent à 1/2 lieue d'ici. 10 sœurs dans la même auberge, ce n'est pas un hasard. Et Laïda peut très bien les avoir envoyées. Oh non !»
lâcha Elaine d'un calme souverain, en apparence en tout cas. Un grand nombre de sœurs semblaient attendre à l'écart que le combat entre Elaïda et Egwene soit terminé. Depuis l'arrivée d'Elaine à Kaemlyn, 2 sœurs étaient parties au signe d'argent, et 3 nouvelles s'étaient installées. Rien qui ressemblât à un groupe en mission, à vrai dire. Et dans le lot, il n'y avait pas une seule sœur rouge. Sans nul doute, Elaïda en aurait envoyé. Malgré tout, et même si elle n'en avait rien dit à Saraïta, Elaine faisait surveiller ses Aes Sedai. Plus encore qu'une acceptée en fugue ou une des rebelles liées à Egwene, Elaïda brûlait de capturer la fille héritière. Pour quelle raison ? Elaine n'aurait su le dire. Pour la Tour Blanche, une reine Aes Sedai n'aurait eu que des avantages. Et si on l'enlevait pour la ramener de force à Tarvalon, Elaine ne s'assiérait jamais sur le trône. Cela posé, quand Elaïda avait ordonné qu'on la ramène de gré ou de force, la jeune femme ne semblait pas en position de ceindre la couronne avant de nombreuses années. Pourquoi la position de la chair d'Amerlin n'avait-elle pas changé? Cette énigme tracassait Elaine depuis que Ronde Makura lui avait fait boire l'immonde potion qui l'avait pour un temps empêché de canaliser. Une énigme plus inquiétante que jamais, à présent que le monde entier savait où trouver la future reine d'Andorre. Le regard d'Elaine s'attarda sur une femme aux cheveux noirs, vêtue d'un manteau bleu à la capuche abaissée. Daignant à peine jeter un coup d'œil, l'inconnue, un sac en tissu plein à craquer pendu à son épaule, entra dans la boutique d'un fabricant de bougies. Il ne s'agissait pas d'une Aes Sedai, décida Elaine, mais simplement d'une femme qui vieillissait bien, comme Zaïda d'Inparédé.
Et dans le cas contraire,
continua Elaine,
je ne me cacherai pas par crainte d'Elaïda.
Que pouvaient bien m'y jeter les Aes Sedai descendus au signe d'argent? Saraïta grogna, pas discrètement, et parut sur le point de rouler de grands yeux. Mais elle se ravisa. De temps en temps, Elaine sentait peser sur elle le regard d'une des autres sœurs présentes au palais. Sans doute l'étonnement de découvrir le cadre où elle avait grandi. Pourtant, au moins en apparence, ces femmes l'acceptaient, reconnaissant qu'elle était une Aes Sedai, la plus puissante de toutes, en fait, à l'exception de Ninévé. Ça ne les incitait pas à arrondir les angles, car elle lui disait le fond de leurs pensées, sans s'embarrasser de diplomatie. Avec une sœur de son niveau ayant suivi une trajectoire plus classique, se serait-elle montrée moins directe? À coup sûr, oui.
Oublions Elaïda, donc,
fit Sarita.
Mais n'oublions pas toutes les autres qui aimeraient avoir en leur pouvoir. Une pierre bien lancée, et tu ne serais plus qu'un fardeau inconscient, facile à emporter, on ne sait où.
Sarita était-elle obligée d'enfoncer sans cesse des portes ouvertes ? Enlever les candidates au trône était quasiment le sport national andorien. Et toutes les maisons opposées à la sienne avaient à Kaemlyn des partisans qui guettaient une occasion. Sans avoir de grandes chances de réussir, tant qu'Elaine serait capable de canaliser. Mais ça ne les empêcherait pas d'essayer. À Kaemlyn, la fille héritière ne s'était jamais attendue à être en sécurité.
« Si je ne sors jamais du palais, Sarita, le peuple ne me soutiendra pas. On doit me voir dans la rue, libre et sans crainte. »
D'où les 8 gardes du corps, au lieu des 50 que Birgit aurait voulu. Mais la championne restait hermétique aux exigences de la politique.
« En outre, puisque tu es là, il faudrait 2 pierres bien lancées. »
Sarita grogna de nouveau, mais Elaine ne daigna pas tenir compte de son obstination. Elle aurait voulu ignorer la présence de cette femme, mais c'était impossible. Cette sortie, en réalité, ne visait pas seulement à se montrer au peuple. Alwyn Nori, le premier clerc, la bombardait de chiffres et de faits concernant le royaume. Alors que la voix monocorde de cet homme l'endormait systématiquement, elle tenait à voir les choses de ses yeux. Racontée par Nori, une émeute devenait aussi assommante qu'un rapport sur les citernes municipales ou le nettoyage des égouts. Une multitude d'étrangers se mêlait aux locaux. Des Candoriens à la barbe fourchue, des Ilianiens porteurs de boucs sans moustache, des Arafeliens aux nattes piquetées de clochettes d'argent, des Domani au teint cuivré, des Altariens à la peau olivâtre, des Théariens à la sombre complexion et des Kérieniens, reconnaissables à leur petite taille et à leur pâleur extrême. Beaucoup de ces gens étaient des marchands, surpris par l'arrivée soudaine de l'hiver ou décidés à brûler la politesse à la concurrence. Gonflés de leur importance, ces hommes et ces femmes clamaient haut et fort que le commerce était le sang même des nations. Convaincus d'être une artère essentielle de ce système circulatoire, ils paradaient, même quand un manteau à la teinture passée ou une broche de cuivre et de verre trahissait leur insignifiance. Parmi les passants, beaucoup portaient des vestes élimées, des pantalons déchirés aux genoux et râpés à l'ourlet, et des manteaux en haillons, lorsqu'ils en avaient. Des réfugiés chassés de chez eux par la guerre, ou poussés à l'exil parce que le dragon réincarné, selon eux, avait brisé tous les liens qui les rattachaient au monde. Les épaules voûtées, les yeux fous, ils se laissaient emporter par la marée humaine, tels des morceaux de bois flottés, dans un naufrage. Avisant une femme aux yeux ternes, un tout jeune enfant sur les épaules, Elaine sortit une pièce de sa bourse et l'attendit à une de ses gardes du corps. Le regard froid sur son visage rond, Tzigane prétendait venir du Géaldan, la fille unique d'une famille de nobles mineurs. Après tout, elle pouvait dire vrai sur ses origines. Quant au reste, quand Tzigane se pencha pour lui tendre la pièce, la femme continua à avancer, comme si elle ne la voyait pas. En ville, il y avait trop de malheureux, dans cet état. Dans des cantines improvisées, le palais en nourrissait des milliers chaque jour. Hélas, beaucoup ne trouvaient même plus la force de venir chercher leur pain et leur soupe. Elaine remit la pièce dans sa bourse et pria pour le salut de cet inconnu et de son enfant.
« Tu ne peux pas subvenir aux besoins de tout le monde, »
dit Sarita, consolante.
« En Andorre, »
déclara Elaine, comme si elle lisait un décret.
« Les enfants n'ont pas le droit de mourir. »
Mais comment faire pour que ça n'arrive plus ? Si les vivres ne manquaient pas, aucun décret ne pouvait forcer les gens à manger. D'autres étrangers, hommes comme femmes, étaient arrivés en haillons, mais n'en portaient plus depuis longtemps. Quoi qu'ils les aient chassés de chez eux, ils avaient décidé qu'ils n'iraient pas plus loin, puis pensé au travail qu'ils avaient dû abandonner en même temps que la majorité de leurs biens. À Kaemlyn, quiconque avait des compétences et un peu d'énergie pouvait trouver un banquier prêt à le financer. Ces derniers temps, les boutiques poussaient comme des champignons. En une matinée, Elaine avait vu pas moins de 3 nouveaux horlogers. 2 souffleurs de verre venaient d'ouvrir au centre-ville, et une 30aine de fabriques étaient achevées ou en cours de construction dans le secteur nord. Désormais, Kaemlyn exporterait du verre au lieu d'en importer, et idem pour le cristal. Et la capitale pouvait aussi se vanter de produire une dentelle aussi somptueuse que celle de Lougarde. Rien d'étonnant, puisque presque tous les artisans en venaient. Ces considérations remontèrent un peu le moral d'Elaine. Avec les taxes et les impôts dont s'acquitteraient ses commerces, modestes au début, mais ça valait mieux que rien, on pourrait faire bien des choses. Dans la foule, Elaine remarqua surtout le nombre impressionnant de mercenaires. Andoriens ou étrangers, ils étaient faciles à reconnaître. Des types au visage dur, armés jusqu'aux dents, qui bombait le torse en toutes circonstances. Les gardes du corps de marchand étaient eux aussi armés, et ils n'hésitaient pas à jouer des coudes pour se frayer un passage. Comparés aux mercenaires, ils semblaient pourtant moins arrogants et arboraient en général beaucoup moins de cicatrices. Dans la foule, ces mercenaires étaient comme des raisins dans un gâteau. Avec une telle offre, en une saison où la demande déclinait, les tarifs avaient de bonnes chances de baisser. À moins que ces gaillards, comme Dagilin le redoutait, finissent par coûter son royaume à Elaine. D'une manière ou d'une autre, elle devait trouver assez d'hommes pour que les étrangers ne soient pas majoritaires dans sa garde, et l'argent nécessaire pour les payer. Soudain, la fille héritière eut une conscience aiguë de la présence de Birgit. Comme souvent ces derniers temps, la championne était en colère. Dans sa rage, elle approchait à toute allure de la petite colonne. Une combinaison d'affect et d'action qui alarma Elaine. Sans tergiverser, elle ordonna un retour vers le palais par la route la plus directe, celle qu'empruntait sûrement Birgit, guidée par le lien. Du coup, la fille héritière et son escorte tournèrent vers le sud, dans la rue de l'Aiguille. Une voie assez large, mais sinueuse, qui passait d'une colline à l'autre. Son nom lui venait des temps lointains, où elle était le fief des fabricants d'aiguilles. Désormais, on y trouvait des auberges, des tavernes, des couteliers et d'autres artisans, à l'exception des fameux fabricants d'aiguilles. Birgit rejoignit les cavalières alors qu'elle s'engageait dans la voie Pirman, un peu avant d'entrer dans la cité intérieure. Tout au long de cette rue s'alignaient des boutiques de maraîchers, qu'on se repassait de père en fils depuis les temps lointains d'Ishara Kassalein, la première reine d'Andorre. À cette époque de l'année, les étals étaient bien entendu presque vides. Son manteau rouge battant au vent, Birgit avançait au petit trot, malgré la foule. Alors que les gens, affolés, s'écartaient devant elle, la championne tira enfin sur ses rênes. Comme pour compenser sa précipitation, elle prit le temps d'étudier les huit gardes, retourna son salut à Casseil et vint chevaucher à côté d'Elaine. Contrairement aux huit femmes, elle ne portait ni épée ni armure. À l'en croire, le souvenir de ses vies passées s'estompait. Avant la fondation de la Tour Blanche, elle ne se rappelait plus grand-chose clairement, même si des bribes subsistaient. À part un seul point, très précis. Chaque fois qu'elle avait tenté d'utiliser une épée, ça n'était pas passé loin de lui coûter sa peau. Quand elle n'avait pas bel et bien fini 6 pieds sous terre.
« Un pigeon à moitié gelé est arrivé tout à l'heure au palais, »
dit-elle d'un ton furibard.
« Avec des nouvelles d'Aringil. Les hommes qui escortaient Néan et Elenia sont tombés dans une embuscade, à moins de 2 lieues de la ville. Tous sont morts, mais un de leurs chevaux est revenu avec du sang sur sa selle. Sinon, nous n'en aurions rien su avant des semaines. Je doute que ces deux-là aient été capturés par des bandits en quête d'une rançon. Ce serait trop beau. »
Cœur de Feu fit un pas de côté, et Elaine dut le remettre dans le droit chemin. Au sein de la foule, un cri sembla saluer la gloire des Tracandes. Ou non. Les beuglements des marchands ambulants étaient trop forts pour qu'on entende le reste.
« Donc, il y a un espion au palais, »
dit Elaine. Elle pinça les lèvres, agacée de n'avoir pas su tenir sa langue devant Seraïta. Birgit ne sembla pas avoir les mêmes préventions.
« À moins qu'il y ait entre nos murs un taveren dont nous ignorons l'existence. Avec ça, tu vas enfin me laisser t'affecter un garde personnel. Une personne de confiance qui... Non !»
Au palais, Elaine était chez elle, et nul ne la surveillerait. Jetant un coup d'œil à Seraïta, elle vit qu'elle écoutait attentivement. Plus besoin d'essayer de lui cacher des choses désormais.
« Tu as prévenu la première servante ?»
D'un regard furieux et d'une décharge d'indignation via le lien, Birgit indiqua à son Aes Sedai qu'elle pouvait bien aller apprendre à tricoter à sa grand-mère.
« Bien sûr. Elle compte interroger tous les domestiques qui ne servaient pas ta mère depuis au moins 5 ans. Je me demande si elle n'envisage pas de les torturer. Après lui avoir appris la nouvelle, je me suis félicité de quitter son bureau avec la peau sur les os. Comme tu t'en doutes, j'interrogerai moi-même les autres. »
Birgit parlait des gardes de la reine, mais elle préférait rester vague devant Casseil et les 7 autres. Elaine doutait que la démarche donne des résultats. À chaque recrutement, des espions pouvaient s'infiltrer dans un groupe, mais sans être sûrs d'occuper un poste où ils apprendraient des choses utiles.
« S'il y a des espions au palais, »
intervint Saraïta,
« il peut y avoir pire. Tu devrais accepter le plan de Dame Birgit. À présent, il y a un précédent. »
Birgit montra ses dents à l'Aes Sedai. Un sourire ? Terriblement raté, si c'était le cas, mais sincère. Comme si être appelée dame lui donnait de l'urticaire, elle se tourna vers Elaine, pleine d'espoir.
Quand je dis non, c'est non !»
Le mendiant qui approchait de la petite colonne, un sourire aux lèvres et un chapeau renversé dans la main, détala, comme s'il avait le ténébreux à ses trousses. Troublée, Elaine se demanda quelle part de sa brusque colère lui appartenait et quelle part était à Birgit. Quoi qu'il en soit, sa réaction lui parut appropriée.
« J'aurais dû aller le chercher moi-même, »
marmonna-t-elle. Au lieu de ça, elle avait ouvert un portail pour le messager et passé le reste de la journée avec des marchands et des banquiers.
« Au minimum, j'aurais dû ordonner que presque toute la garnison d'Aringil les escorte. Par ma faute, 10 hommes sont morts. Pire que ça, j'ai perdu Elenia et Nayan. »
Birgit secoua la tête, faisant osciller son épaisse natte, qu'elle portait par-dessus son manteau.
« Primo, les reines ne se chargent pas des missions de ce genre. » Bon sang. Ce sont des têtes couronnées. »
Moins furieuse, un peu en tout cas, Birgit restait exaspérée. Et les deux sentiments s'entendaient dans sa voix. Elle voulait vraiment qu'Elaine ait un garde personnel, jusque dans sa baignoire, probablement.
« Ta vie d'aventurière est terminée. Sinon, ça finira par des excursions sous déguisement, y compris après la tombée de la nuit, à des heures où n'importe quel voyou pourrait te fracasser le crâne sans que tu le vois venir. »
Elaine se redressa sur sa selle. Birgit était au courant de ses escapades, bien entendu. Comment cacher quelque chose à sa championne? S'il existait un moyen de neutraliser le lien, c'était plus que probable, elle ne le connaissait pas. Mais si l'ancienne héroïne continuait avec ses gros sabots, une légion de sœurs voudrait suivre la future reine avec leur champion et tout un régiment de gardes royaux. Tout le monde se souciait de sa sécurité, à croire qu'elle n'était jamais allée à Eboudar, à Tanchico et pis encore à Falm. En outre, jusque-là, elle ne s'était offert qu'une excursion nocturne, en compagnie d'Avienda.
« Les rues noires et froides ne valent pas un bon livre devant un feu bien chaud. »
fit Sareïta, comme si elle pensait tout haut. Les yeux rivés sur les boutiques, à croire qu'elle la fascinait, elle continua.
« Je déteste marcher sur des pavés verglacés, en pleine nuit, sans même une bougie pour m'éclairer. Les jeunes et jolies femmes croient souvent que des vêtements ordinaires et de la crasse sur les joues suffisent à les rendre invisibles. »
Déconcertée par ce passage abrupt du coq à l'âne, Elaine ne fit pas tout de suite le rapprochement.
« Se faire assommer, puis traîner dans une allée obscure, incite vite à changer d'avis. Sauf, bien entendu, si on a avec soi une amie qui peut canaliser, et que l'agresseur ait frappé moins fort qu'il aurait dû. Mais on ne peut pas être chanceuse à tous les coups. Pas vrai, Dame Birgit ?»
Elaine ferma un instant les yeux. Avienda avait dit que quelqu'un les suivait, mais elle avait cru à un simple voleur. Quoi qu'il en soit, l'affaire ne s'était pas passée comme ça. Pas exactement. Birgit foudroya la future reine du regard, une promesse d'explication ultérieure. Quand comprendrait-elle qu'une championne ne pouvait jamais souffler dans les bronches de son Aes Sedai ?
« Secondo, »
reprit Birgit, revenant à leur mouton.
« 10 hommes, ou près de 300, ça n'aurait rien changé. C'était un bon plan. La lumière m'en soit témoin. » Quelques hommes auraient pu conduire discrètement Elenia et Nayan jusqu'à Kemlin. Mobiliser la garnison aurait éveillé les soupçons de tous les espions qui grouillent en Andorre. Et leur commanditaire aurait simplement engagé plus de tueurs. Très probablement, ces gens tiendront désormais à Ringil. En plus de tout. Si petite que soit la garnison, elle refroidit les ardeurs de tous ceux qui voudraient se dresser contre toi à l'est. Enfin, plus il y aura de gardes originaires du Kairien, et mieux ça vaudra, parce qu'ils te sont presque tous loyaux.
Pour quelqu'un qui affirmait être une simple archère, Birgit avait un sacré sens de l'analyse. Dans son scénario catastrophe, elle avait juste oublié la perte des droits douaniers du commerce fluvial.
« Qui a enlevé Elenia et Nayan, Dame Birgit ?»« De toute évidence, c'est une question cruciale. »
La championne soupira à Pierre Fendre.
« Nous le saurons bien assez tôt, j'en ai peur, »
répondit Elaine. La sœur marron la regardant dubitativement, elle tenta de ne pas grincer des dents. Depuis son retour en Andorre, ça lui arrivait bien trop souvent. Une tarabonaise, enveloppée dans un manteau de soie verte, s'écarta du chemin des chevaux et s'inclina humblement, ses fines tresses ornées de perles oscillant hors de son capuchon. Sa servante, une petite femme au bras lessé de paquet, l'imita avec une maladresse touchante. Armés d'un gourdin à la tête renforcée de fer, les deux gardes du corps de la dame ne relâchèrent pas leur vigilance. En cuir, leur long manteau pouvait dévier bien des coups, sauf peut-être ceux d'un couteau très pointu. Elaine inclina la tête en réponse au salut de la tarabonaise. Jusque-là, aucun andorien ne lui avait témoigné autant de respect. Derrière le voile transparent, le beau visage de la femme accusait trop le passage du temps pour être celui d'une Aes Sedai. un coup de chance. Elaine avait bientôt de chats à fouetter pour s'occuper d'Elaïda.
« Pour répondre quand même à ta question, c'est très simple, Sarita, »
dit-elle d'un ton très neutre.
« Si c'est Jared Saran qui les a capturés, Elenia proposera deux solutions à Nayan. Primo, que la maison Aaron se rallie à sa candidature, avec quelques avantages territoriaux pour sa haute chair. Secondo, en cas de refus, une exécution sommaire dans une cellule obscure et des funérailles dans la cour d'une grange. Nayan ne capitulera pas aisément. Mais dans sa maison, on délibère pour savoir qui commandera jusqu'à son retour. Donc, personne ne se pressera de prendre une décision. Elenia menacera Nayan de la torturer, voire passera à l'acte. Et pour finir, la maison Aaron soutiendra Sarand, au bénéfice d'Elenia. Fascinés comme d'habitude par la force, les maisons Anshar et Barin suivront le mouvement. Si les ravisseurs sont des sbires de Nayan, Elenia se verra offrir le même choix, mais Jared attaquera la maison Aaron, sauf si Elenia lui demande de ne rien faire. Et c'est peu probable, si elle lui accorde l'ombre d'une chance de la sauver. Du coup, avec un peu de chance, au cours des semaines à venir, nous apprendrons que les domaines des Aaron sont à feu et à sang. Sinon, je me retrouverai avec quatre maisons unies contre moi, sans même savoir s'il y en a deux pour me soutenir. Un raisonnement brillant,
fit Sarita, visiblement surprise.
Avec un peu de temps, tu en serais arrivé aux mêmes conclusions,
dit Elaine, ravie de voir la sœur rougir. Pas la lumière. À 10 ans, sa mère aurait exigé qu'elle comprenne tout ça en un éclair. Le reste du trajet jusqu'au palais se déroula en silence. Distraite, Elaine n'accorda aucune attention aux tours en mosaïque et aux autres merveilles de la cité intérieure. Des Aes Sedai à Kaemlyn, des espions au palais, l'enlèvement de Nayan et Elenia, le recrutement en cours conduit par Birgit, que de soucis. À propos du recrutement, allait-il falloir vendre l'argenterie du palais et les bijoux qui lui restaient? De gros tracas, vraiment. Pourtant, avec une sérénité de façade, Elaine remercia d'un geste tous les passants, assez rares, qui l'acclamèrent sur son passage. Une reine ne devait jamais montrer qu'elle avait peur, surtout quand c'était vrai. Plus haut bâtiment de Kaemlyn, le palais était un fabuleux entrelacs de balcons ouvragés et de promenades à colonnades. Visibles à des lieues de distance, ses tours et ses dômes dorés brillaient au soleil. Une ode à la puissance du royaume d'Andorre. Les arrivées et les départs protocolaires avaient lieu sur la place de la Reine, là où des foules se rassemblaient jadis pour entendre la proclamation des nouvelles souveraines et s'en réjouir. Elaine entra par l'arrière du bâtiment, les sabots de cœur de feu martelant les pavés tandis qu'elle arrivait dans la cour de l'écurie principale. Sur deux côtés, une série d'arches donnait accès au stall et un grand balcon de pierre dépourvu d'ornements, au fond, permettait d'avoir une vue plongeante sur l'ensemble des installations. Dans ce lieu avant tout fonctionnel, une dizaine de gardes, présentement passés en revue par un sous-lieutenant, un vétéran boiteux qui avait servi comme porte-étendard sous les ordres de Brian, se préparaient à relever les hommes qui surveillaient une modeste entrée. Près de la sortie, une trentaine de cavaliers s'apprêtaient à partir en patrouille, des binômes chargés de sillonner la cité intérieure. En temps normal, cette mission revenait à la garde civile, mais en des temps de pénurie d'hommes, cette tâche aussi incombait au palais. Karéan Franci était là aussi. Solide bonne femme, vêtue d'une élégante robe d'équitation verte à rayures et d'un manteau bleu, elle trônait sur son hongre gris, tandis qu'un de ses champions, Venr Kosahan, enfourchait son cheval bai. Le teint sombre, ses cheveux frisés déjà grisonnants, cet homme très mince portait un manteau marron des plus ordinaires. À l'évidence, ces deux-là tenaient ne pas se faire remarquer. L'irruption d'Elaine fit quelques remous dans la cour. Pas auprès de Karéan et de Kosahan, bien entendu. Dans les ombres de sa capuche, la sœur verte parut vaguement surprise, et son champion ne broncha pas. En bon collègue, il salua néanmoins de la tête Birgit et Yarman, puis il suivit son Aes Sedai et sortit avec elle de la cour. Parmi les gardes, en revanche, certains s'immobilisèrent, un pied dans un étrier. Comme leurs camarades, les hommes qu'on passait en revue tournèrent la tête vers les nouveaux arrivants. La fille héritière n'était pas attendue avant au moins une heure. À part quelques inconscients, personne ici n'ignorait que la situation était tendue. Entre les soldats, les rumeurs circulaient à la vitesse de l'éclair, plus rapidement encore que chez les civils, ce qui n'était vraiment pas peu dire. Ces hommes devaient donc savoir que Birgit était partie à la hâte. Et voilà qu'elle revenait avec Elaine, bien avant le moment prévu. Une maison dissidente marchait-elle sur Kemlin, prête à attaquer? Allait-il falloir se poster sur les murs, alors qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour les couvrir entièrement, même avec les renforts de Dayelin? Le flottement dura jusqu'à ce que le sous-lieutenant bugle un ordre. Aussitôt au garde-à-vous, les hommes saluèrent la fille héritière. À part l'ancien porte-étendard, trois seulement n'étaient pas de nouvelles recrues. Pour autant, il ne s'agissait pas de bleus. Un lion blanc brodé sur leur veste rouge, des palefreniers se précipitèrent, bien qu'on n'ait pas vraiment besoin d'eux. Sur un ordre de Birgit, les huit gardes mirent pied à terre et prirent leur monture par la bride. L'archère sauta à terre et lança ses rênes à un palefrenier. Elle fut pourtant moins rapide que Yarman, déjà en train de tenir le cheval de Sareïta pendant qu'elle en descendait. L'homme était ce que certaines sœurs appelaient une prise récente. Désignant des champions dont le recrutement remontait à moins d'un an, cette expression datait de l'époque où on ne demandait pas toujours aux hommes s'ils acceptaient le lien. Très empressé, Yarman avait réussi à devancer un palefrenier. Vexé de n'avoir pas pu en faire autant, Birgit feignit d'observer les hommes qui allaient bientôt partir en patrouille. Pas dupe, Elaine aurait parié son chemisier qui ne l'intéressait pas le moins du monde. Cela dit, la fille héritière avait ses propres soucis. En s'efforçant de rester discrète, elle étudia la femme filiforme qui tenait cœur de feu par la bride et l'homme râblé qui stabilisait son étrier, après avoir posé dessous un marchepied recouvert de cuir. Le type affichait un visage fermé, délibérément, et sa compagne se concentrait sur le hongre, lui flattant les naseaux en lui parlant à l'oreille. Aucun des deux n'avait réellement regardé Elaine. Après l'avoir salué de la tête, il se concentrait pour éviter que la future reine se propulsait dans les airs par une monture soudain nerveuse. Qu'Elaine ait ou non besoin de leur assistance n'importait pas. Ici, elle n'était plus à la campagne, et il y avait des protocoles à respecter. Du coup, la fille héritière cacha son agacement. S'éloignant tandis qu'ils emmenaient cœur de feu, elle ne jeta pas un regard en arrière. Pourtant, elle en aurait eu envie. Le couloir sans fenêtre, une fois l'arche d'entrée franchie, se révéla plutôt obscur, malgré les lampes à déflecteurs qui l'éclairaient. Ici, tout était strictement utilitaire. Des murs lisses blancs jusqu'aux corniches sans sculpture. Avertie de l'arrivée d'Elaine, une demi-douzaine de domestiques vinrent la saluer, puis la soulager de son manteau et de ses gants. Leur livrée différente de celle des écuyers, ses serviteurs arboraient des manchettes et un col blanc, et le lion d'Andorre était brodé sur leur cœur. Elaine ne reconnut personne dans ce groupe. Au palais, il y avait beaucoup de nouveaux employés, sans compter ceux qui avaient renoncé à leur retraite pour remplacer les pleutres terrorisés par la prise de pouvoir de Rand. Chauve au visage carré, un homme s'efforça de ne pas croiser le regard de la fille héritière, peut-être parce qu'il aurait trouvé ça un rien impudent. Une femme, en revanche, se fendit d'une révérence trop appuyée et d'un sourire trop large pour être honnête. Une façon de souligner sa loyauté, peut-être. Suivie par Birgit, Elaine pressa le pas, avant d'être tentée de foudroyer du regard les deux domestiques. La méfiance, décidément, lui laissait un goût amer dans la bouche. Sareïta et son champion s'engagèrent dans un couloir latéral, une affaire de livres qu'elle voulait consulter à la bibliothèque, expliqua la sœur Marron. Moins bien fournie que les grandes bibliothèques, celle du palais contenait pourtant des ouvrages que la Sedai prétendait uniques, et donc d'une inestimable valeur. Tel un étrange signe noir, elle s'éloigna, une cigogne bizarrement gracieuse lui emboîtant fidèlement le pas. Yarman ne s'était pas séparé de sa cape caméléon, proprement pliée sur son bras. Les champions restaient rarement loin de ce vêtement. À coup sûr, celui de Kossahan devait être rangé dans ses fontes.
« Tu voudrais une cape caméléon, Birgit ?»
demanda Elaine en marchant. Pas pour la première fois, elle envia son pantalon ample à la championne. Même une jupe d'équitation divisée exigeait des efforts décompressait le pas. Au moins, la fille héritière portait des bottes. Pas de jolies chaussures qui n'auraient pas protégé ses pieds du sol aux dalles rouges et blanches gelées. Au palais, il n'y avait pas assez de tapis pour en disposer dans les couloirs. De toute façon, ils auraient été usés jusqu'à la corde en très peu de temps.
« Dès qu'Egwen contrôlera la tour blanche, t'en ferais confectionner une. Tu dois avoir une cape de ce genre. Je n'ai rien à faire de ces fichus trucs. »
marmonna Birgit avec un rictus méprisant.
« Ça s'est passé si vite. J'ai cru que tu avais trébuché, cognant ta maudite tête de mule sur les pavés. Par le sang et les cendres, assommé par des fichus voyous des rues. La lumière seule sait ce qui serait arrivé.
Inutile de t'excuser, Birgit.
De l'indignation se déversa à travers le lien, mais Elaine tint bon. En privé, les sermons de la championne étaient déjà une nuisance. Si elle commençait à les tenir en public, devant les serviteurs qui vaquaient leurs occupations, s'ils ne tendaient pas ostensiblement l'oreille, tous devaient se demander pourquoi la nouvelle chef de la garde fulminait ainsi, et ils feraient tout pour en savoir plus long.
« Tu n'étais pas là parce que je ne voulais pas de toi. Et je parie que Ned n'était pas avec Seraïta. »
Birgit se rembrunit encore. Un exploit que la fille héritière aurait cru impossible. Mentionner Seraïta avait peut-être été une gaffe. Maligne, Elaine changea de sujet.
« Tu devrais surveiller ton langage. Encore un effort et tu parleras comme un charretier. »« Mon langage, »
grogna Birgit, comme une panthère furieuse, dont elle venait d'ailleurs d'adopter la démarche.
« Toi, tu me sermonnes sur ce point. Au moins, je connais le sens des expressions que j'utilise. Moi, je ne profère pas d'énormité au moment le plus inopportun. »
Elaine s'empourpra. Bien sûr qu'elle savait ce qu'elle disait. La plupart du temps, en tout cas.
« Quant à Yarman, »
continua Birgit, toujours dangereusement calme.
« C'est un brave type, mais encore tout ébahi d'être un champion. Quand Seraïta claque des doigts, il doit encore sauter comme un toutou. Moi, je n'ai jamais été ébahi. Et sauter n'est pas dans mon caractère. C'est pour ça que tu m'as affublé d'un titre? Tu pensais me faire rentrer dans le rang? Ce ne serait pas ta première idée stupide. Dommage, pour quelqu'un qui pense juste la plupart du temps. Bien. Mon bureau croule sous de maudits rapports que je dois étudier si je veux obtenir la moitié des gardes dont tu rêves. Et ce soir, nous aurons une longue conversation. En attendant, je te salue, Ta Majesté.
Birgit se fendit d'une révérence grotesquement protocolaire. Puis elle s'éloigna à grands pas, sa natte battant l'air comme la queue d'un félin enragé. Elaine en tapa du pied de frustration. Le titre de Birgit était mérité et gagné 10 fois depuis qu'elle avait fait d'elle sa championne. Sans oublier les 1000 fois d'avant. La faire rentrer dans le rang? Elle y avait pensé, pour être honnête, mais après avoir pris sa décision. Et sans aucun résultat. Qu'ils viennent de l'Aes Sedai ou de la future reine, Birgit choisissait les ordres auxquels elle obéissait. Pas pour les choses importantes, enfin, qu'elle tenait pour importantes, mais pour tout le reste, en particulier ce qu'elle qualifiait de risques inutiles ou de comportements déplacés. Comme si Birgit Arc d'Argent était la mieux qualifiée pour prêcher la prudence aux autres. Quant aux comportements déplacés, qui donc se déchaînait dans les tavernes? Jouant, buvant et frétillant devant les jolis garçons, ceux qu'elle préférait regarder, même si elle avait un faible pour les gars à la gueule de travers. Admirant et aimant l'archère, Elaine ne voulait surtout pas la changer. Mais si leur relation ressemblait enfin à celle d'une Aes Sedai et de sa championne, elle ne se plaindrait pas. Surtout si le côté « grande sœur qui sait tout et tarabuste sa cadette » passait par perte et profit. Soudain, Elaine s'avisa qu'elle était plantée sur place, le regard dans le vide. En passant à côté d'elle, les serviteurs hésitaient, comme s'ils redoutaient de se faire incendier. Adoptant un air moins renfrogné, elle fit signe à un grand adolescent boutonneux qui descendait le couloir. Très gauche, il s'inclina trop bas et faillit s'étaler sur le sol.
« Va dire à maîtresse Harford de me retrouver au plus vite dans mes appartements !»
ordonna Elaine. D'un ton plus conciliant, elle ajouta.
« Et sache que tes supérieurs seraient très mécontents de savoir que tu te tournes les pouces au palais au lieu de travailler. »
Le type en resta bouche bée, comme si elle avait lu ses pensées. D'ailleurs, il le crut peut-être. Ses yeux ronds se posant sur la bague au serpent, il sursauta, se fendit d'une autre grotesque révérence et détala sans demander son reste. Elaine ne put s'empêcher de sourire. En réalité, elle avait frappé au hasard. Mais le gars était bien trop jeune pour être un espion et trop nerveux pour n'avoir rien eu à se reprocher. Cela dit, le sourire d'Elaine s'effaça. Cela dit, il n'était pas beaucoup plus jeune qu'elle.